chez Enviro-Connexion. Nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro-Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sani Estrie au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque.
Le show à l'évêque.
Avec Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque.
Stéphane Lévesque analyse l'actualité avec vous.
Avec vous.
Truck Stop Québec.
Ici Stéphane Lévesque et vous regardez Québec Crime. On a une émission pas pourrie pour vous. Pas pourrie, pas pourrie.
La différence est là.
On va, dans le fond, on a mélangé plusieurs thèmes. Ouais. On va parler de hold-up qui ont mal tourné.
Ouais.
Et là, on a peut-être des gens qui sont plus jeunes dans l'auditoire. C'est que c'est un type de crime qui était relativement fréquent.
Oui.
On braquait des banques. On braquait des banques. Puis il m'est arrivé quelque chose cette semaine, moi.
Okay.
Je prenais ma marche sur la rue principale à Saint-Léonard-d'Aston.
Puis tu t'es dit, pourquoi je me fais pas une banque, non?
Non! Dans mon trajet, il y a une banque.
Okay.
Et là, il y avait un camion qui déchargeait de l'argent. Puis là, j'ai dit, ah, ça m'a comme, j'ai comme un flash dans le dire, pas je veux faire un vol.
Non.
Mais là,
ah non.
Mais j'ai dit, on voit plus ça. On voit plus ça. Ça peut arriver encore.
Ouais.
Mais c'était fréquent, ça, dans les années 60-70. Uh-huh. Et là, on va remonter encore plus loin. 1er avril 1924, ce n'est pas un poisson d'avril. On est à Montréal et il y a un hold-up qui tourne vraiment mal.
Oui.
Parce que là, les protagonistes, les criminels, vont finir morts.
Oui.
Vont être exécutés.
Sur la potence.
Exactement. Oui. Donc, mais nous, en contexte, on est le 1er avril 1924, 14 heures.
Oui.
C'est exact.
Oui, c'est très, très, très précis. Bon. Israël Pelletier, qui était policier à moto, lui, c'est un des premiers à remarquer qu'il se passe quelque chose de louche dans le coin du tunnel de la rue Ontario à Montréal.
Oui.
Et lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a un premier suspect qui est sur le toit d'une voiture et qui est en train d'essayer de couper les câbles du tramway. Pour les plus jeunes, il y avait des tramways à l'époque qui faisaient office un peu d'autobus là, dans la ville.
Avec des, c'était plugué sur des fils électriques.
De fond, ça c'est ça.
On m'a demandé, on enlevait ça, puis on va en ramener peut-être à Québec. Hein? C'est ça, la vie.
C'est ça. Aller-retour. Des hauts et des bas.
Eh oui, c'est ça.
Ouais. Et puis, il y en a un autre qui est en train d'installer, lui, un autre individu qui est en train d'installer une chaîne, carrément une chaîne en travers de la rue, pour essayer de bloquer le passage. Mais là, il n'y a pas trop le temps de réfléchir. Ça se passe très, très, très rapidement. Il y a des coups de feu qui éclatent. Il y a au moins 4 bandits, là, parce que, tu sais, dans une fusillade, des fois, on voit ça au cinéma souvent. Là, c'est rare qu'on assiste à des fusillades en vrai. Hein. La plupart qu'on voit, c'est au cinéma.
On souhaite jamais n'y assister.
Ouais. On est capable d'identifier nos acteurs là, dans les fusillades. Mais là, dans une vraie fusillade, des fois, il y a 4, 5 bandits, on ne sait pas.
Non, non, non. Puis parfois, l'effet, tu sais, il y a un effet confusion.
Oui. Hein.
C'est après ça, d'avoir des témoignages.
C'est ça. Qui a tiré sur qui?
Exactement.
Alors, il y a un messager qui est blessé, qui s'appelle Roland Fortier, qui, lui, c'est un projectile qui
coupe
carrément
le doigt.
Un doigt.
Aïe aïe.
Ouais. Et le nom qu'il faut retenir le plus, qui va être la victime dans ce dossier-là, c'est Henri Cléroux, qui, lui, est un employé de la compagnie de transport. C'est un peu comme les blindés d'aujourd'hui.
Le camion que j'ai croisé cette semaine dans mon village.
C'est ça, exactement. Et les témoins, ce qui vont être rapportés après, c'est qu'il y a deux voitures distinctes, une de marque Hudson et l'autre de marque Ford, qui prennent la fuite. Donc, comment il y a de bandits à l'intérieur, on ne sait pas trop, comme je te disais. C'est quatre ou cinq, bon.
Mais ce n'est pas l'acte d'un gars seul.
Non, ça, c'est sûr que non.
Il y a une équipe.
On voit que c'était organisé, puis il y avait une certaine planification. Parce que dans tout ça, il y a un vol, le montant du vol, je l'ai tué, c'est plus loin, c'est 140 000 $
En dollars de 1924, c'est plusieurs millions aujourd'hui, ça.
C'est ça.
C'est de l'argent beaucoup.
C'est très beaucoup.
Oui.
Donc, à 14h30, une demi-heure après environ, la voiture de Mark Hudson est repérée sur la rue Boyer à Montréal. Donc,
ça a progressé.
Ça progresse rapidement.
OK.
Ouais.
Puis, dans ce char-là, cette voiture, excusez-moi, il y a un cadavre, il y a une carabine, il y a deux fusils de chasse, il y a des masques et des bordereaux portant l'étampe de la banque Hochelaga.
Oui. Et le corps, ben, on l'identifie à cause des papiers qu'il y a sur lui. Il s'appelle Harry Stone.
Okay.
C'est plus ou moins important, mais ça va permettre, parce que c'est pas un nom très connu aujourd'hui, mais ça va permettre à la police de retracer, eux autres savent un peu c'est qui, mais ce qui est le plus important, c'est que dans ses poches, à ce monsieur-là, il y avait un numéro de téléphone.
Ah.
Et ce numéro de téléphone-là, tu sais, c'est quand même son chanceux un peu. Mais ce numéro de téléphone-là va permettre de remonter la piste jusqu'à un appartement où ils vont aller visiter, qui était situé au 57 rue Coursol, toujours à Montréal. Et puis, ils vont se rendre à l'appartement-là. Ils vont rencontrer un certain Giuseppe Serafini.
Oui.
On va l'appeler Serafini pour les prochaines minutes. Ça va être plus facile. Mais on trouve sur place quelques milliers de dollars.
Excuse-moi. Le Stone, alias Ward en question, est un bandit.
Oui.
Qui a été tué dans le cadre de la fusillade. Ouais,
c'est ça.
OK. C'était pas un kidnappé.
Non. Ouais, c'est ça. Excuse-moi.
C'est pas un gars qui a pris sur le pouce.
Non.
C'était un bandit.
Ouais.
Bon, OK.
C'est ça.
Donc, on s'en va d'un appartement via l'information qu'on trouve sur le Stone.
Ouais.
On se ramasse dans un appartement où il y a de l'argent, beaucoup d'argent.
Beaucoup d'argent.
Et on a des gens qui s'apprêtaient à prendre la fuite vers New York.
Oui, il y a des documents qui ont trouvé dans l'appartement qui indiquent comme quoi qu'ils s'apprêtaient à fuir pour New York.
Des cartes, mettons.
Oui, des choses comme ça.
Qui permettent de penser que ça en allait.
C'est ça. Puis là, on s'explique mal un peu pourquoi il se passe deux jours avant qu'il y ait une perquisition plus sérieuse.
Fait que l'appartement est mis sous surveillance.
Ouais.
On présume, on ne sait pas.
On ne sait pas trop.
OK.
Là, le 3 avril, ils en font une perquisition, mais là, vraiment, ils fouillent plus en profondeur. Là, on trouve 20 000 $
OK.
Oui, c'est quand même pas rien. La presse va parler d'un vol vraiment audacieux qui était, pour l'époque, le plus important de toute l'histoire du Canada en termes d'implication, puis de fusillade et de montant du vol aussi. Et puis, on annonce, évidemment, la presse là, saute là-dessus comme...
C'est spectaculaire.
Ouais.
Si on le relate, puis imagine.
C'est ça. Oui, puis on est 100 ans, bientôt 100 ans après.
Plus tard,
c'est ça.
En pleine rue, fusillade, grosse somme d'argent.
On est au Québec, tu sais, on n'est
pas habitué. Pour s'en aller à New York et get away card. OK.
Mais là, on va commencer à comprendre tranquillement pourquoi c'était si gros que ça. C'est que sur dénonciation, parce que là, il y en a un qui va parler dans le groupe.
Ça arrive.
Oui, ça arrive.
Il y en a un qui casse.
Oui, la police arrête Tony Frank.
OK. Je connais pas.
Tu connais pas Tony Frank?
Non. Tu vas me dire, c'est qui?
Oui. Rizzuto, tu connais?
Oui.
Mais c'était le Rizzuto de l'époque.
OK, c'était comme le king de la mafia.
C'est ça.
De
c'était le chef de la mafia, le chef présumé de la mafia.
Okay. Oui,
c'est ça. Et puis, c'est ça. Il y a toute une gang aussi, dénommée Frank Gambino, Mike Valentino, Louis Morel, qui était un ancien policier québécois.
Un ripou.
Oui. Oui. Puis
donc, ça n'arrivait jamais, ça.
Ben non.
Voyons donc. Et Léo Davis.
Ça, c'est
le procès, là, ça sera pas facile.
Ça va être rapide, mais ça sera pas facile.
Parce que d'une fusillade, qui a tiré qui?
Voilà. Puis là, on s'entend qu'il y a plusieurs accusés, mais il y a juste une victime. Là, c'est de savoir lequel des accusés est responsable. Le projectile provient de quelle arme? C'est ça qui est compliqué. Le procès se déroule, c'est assez rapide, là. On était en avril.
Oui.
Là, déjà en juin, c'est le procès. Le procès de Serafini. D'abord, devant le juge Charles A. Wilson, qui a quand même plaidé plusieurs causes à cette époque-là.
Ah, bien, merci.
Oui.
L'information. C'était un inconnu pour moi.
Oui, OK. Et puis, le jury, ça va finir par un jury qui va être en désaccord, vraiment. Fait que là, la justice est obligée d'aller vers un deuxième procès.
Ah, j'ai vu des films dans ma vie, moi, là. Tu l'as vu, toi aussi.
Oui.
Fait que là, tu sais, mes procès impliquant la mafia, As-tu, dans tes recherches, trouvé des informations qui pensent qu'on peut penser qu'il y a des jurys
pas moi,
qui ont été influencés, qui ont
non,
été
pas le jury. Pas le jury, mais ce qui va éclater au deuxième procès, ça, c'est l'auteur que je salue en passant, Pierre de Champlain.
Okay.
On s'est déjà parlé au téléphone brièvement. Et puis, lui, c'est un spécialiste. Là. C'est un ancien de la GRC qui est devenu auteur de livres de crimes organisés publiés aux Éditions de l'Homme. Qui est vraiment très bien.
Si vous nous regardez, écrivez-nous, on vous invite à l'émission.
Ben oui.
Moi, ça, vous interviewez, moi.
Et puis, lui, c'est que c'est surtout sur lui là, que j'ai basé, parce que j'ai pas eu accès à ce procès-là, qui est énorme quand même. Ouais. Et puis, le procès se déroule directement dans les locaux de la prison de Bordeaux, parce qu'on avait peur pour la sécurité de tout ça.
Comme c'est le procès des motards, où on a fait une cour en prison, parce qu'on avait peur de l'auto piégé à la fusillade.
C'est aussitôt qu'on touche à crime organisé, moi qui n'ai pas ma spécialité,
mais
automatiquement, si on parle de crime organisé, on parle à des moyens énormes. Uh-huh. Si eux autres décident de faire libérer quelqu'un, ben, t'sais, faut une sécurité plus importante. Là.
Fait que ça, mais il va y avoir des gens condamnés.
Oui. Oui.
C'est qui, ça? Vont tous être reconnus coupables?
C'est combien qu'il y en a? 6 accusés. Okay. Les 6 accusés vont être reconnus coupables. Sauf dénommé Nieri. Nieri, c'est lui qui va parler pour dénoncer ses autres.
Il a délaté.
Oui. Puis on dit que ce serait un des premiers. Là, je m'avance un peu, mais il me semble que dans le livre de M. de Champlain. C'est un des premiers délateurs officiels dans l'histoire du Québec.
Rénuméré par l'État avec des conditions qui venaient comme on a maintenant.
On va voir après que ça n'a pas été très payant pour lui.
OK.
Nieri affirme, lui, entre autres, que Tony Frank Morel, c'est-à-dire Louis Morel, Gambino, Serafini et Pario, un autre qui se rajoute, ont fourni des armes aux autres pour commettre l'attentat.
Oui.
OK? Parce que Tony Frank, lui, il n'a pas participé directement. Il n'était pas sur les lieux, mais c'est lui qui a financé ça.
Il a comploté.
Oui, puis
il devait. Le metteur en scène.
Oui, puis il devait, lui, sur la recette totale, devait empocher 10 % des recettes.
Okay. Il dit je finance, je vais donner un profit.
C'est ça.
Mais sur les autres, c'était des.
Fait que c'est sûr que physiquement, il ne peut pas être reconnu.
C'était pas sur les
lieux. Oui, mais indirectement, tu sais, il va faire partie du lot, lui aussi. Donc, en cours, il y a des perquisitions par la police, des arrestations, on parle de tout ça, on met en preuve. On estime encore, comme je disais tantôt, le montant à 140 000, mais de ce 140 000-là, on en a retrouvé seulement 25 000.
Donc, Éric, sur ce cas-là du vol de 1924, il y a des éléments qui s'ajoutent aussi, lesquels?
Oui, c'est que là, on se relance la balle un peu. Là. Okay. Parce que là, Nieri a témoigné contre ses collègues, mais là, Louis Morel, lui, il dit... Non, c'est Nieri qui est responsable du meurtre de Cléroux, l'agent du blindé. Là, tout ça. Donc, on se relance la balle. Qui dit? Parce que là, vraiment, la preuve, elle repose sur des dénonciations.
Oh, oui.
Donc, là, qui dit vrai? C'est une question de crédibilité, vraiment. Là, et puis, il y a une autre affaire aussi qui ressort au procès, c'est que ça a été prouvé que la police s'empochait un peu à cause de... T'sais. Là, on est dans les années 20, puis il y a eu des enquêtes aussi à l'administration de la Ville de Montréal dans les années 1.
Oui, Pax Plante, puis tout ça.
Oui, qui est par après.
Ben oui, la police était corrompue à Montréal.
C'est ça.
Comme bien des endroits aux États-Unis,
c'est ça.
L'Amérique du Nord, Al Capone, les gros années d'Al Capone.
Oui, c'est ça.
OK.
Puis finalement, ça se conclut par la pendaison de Tony Frank, Frank Gambino, Louis Morel et Giuseppe Serafini. Qui sont pendus, pas ensemble, mais à tour de rôle.
Suite à ça.
Oui. Et puis, juste pour conclure sur Nieri, le fameux délateur, lui, il serait, selon les informations de M. de Champlain, qui a réussi à colliger, il est retourné, parce que lui, il était en liberté à cause du deal là, qu'il avait fait avec la police. Il est retourné en Italie, mais il n'a pas vécu longtemps.
Ah!
Voilà.
La justice.
La justice.
La Cosa Nostra s'est chargée de lui, on peut présumer.
Oui, voilà.
Une hypothèse. On conclut là-dessus, on prend une petite pause et on vous revient avec l'affaire d'un vol le 23 septembre 1948 qui se passe à Montréal. Donc, on vous revient avec ça après la pause.
Chez Environ Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Environ Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes déboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Nous sommes le 23 septembre 1948. Une Cadillac 1941 s'immobilise devant une banque, la Banque canadienne nationale du quartier Longue-Pointe à Montréal. Deux hommes déguisés passent à l'attaque et un jeune témoin qui est là donne l'alerte.
Ouais.
Et là, s'enclenche un hold-up qui tourne mal.
Ouais, un hold-up, je dirais pas à l'ancienne, là, mais...
Qu'il y a deux policiers qui répondent à l'appel.
Ouais.
On va les nommer parce que c'est important.
Ouais.
Nelson Paquin et Paul Durandleau.
Mm-hmm.
Ils arrivent et là, qu'est-ce qui se passe?
Paquin, lui, dégaine, puis il redonne au voleur, peut-être un peu naïvement. On s'entend que l'Institut de police n'avait pas d'entraînement de conforme aussi, si on veut.
Comme aujourd'hui.
C'est ça.
Les gens, les policiers sont mieux outillés. Lui, il arrive là, il dégaine son fusil. Rendez-vous.
C'est ça. Haut les mains.
Et ils ne se rendront pas.
Non, les deux policiers vont être abattus.
Parce que les bandits ouvrent la porte et ouvrent le feu.
Oui.
Paquin touchait la poitrine et complice.
Oui, Durandleau, lui, meurt sur le coup, carrément.
C'est cool.
Oui. Puis Paquin tente de se relever à un certain moment parce que lui n'est pas mort sur le coup, mais un des bandits va l'achever.
L'achever.
Oui.
Donc, un meurtre crapuleux.
Double meurtre.
Deux meurtres crapuleux.
Et de deux policiers, ce qui n'est pas banal, là. Ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé au Québec, mais c'est quand même pas courant.
Oui, des policiers qui meurent en devoir, c'est heureusement pas trop courant, mais ça arrive.
Heureusement, oui.
Deux voleurs, donc, prennent la fuite.
Avec 1 700 $.
Qui n'est pas une énorme somme, quoique rien qui justifie la mort de deux hommes.
Non, c'est ça. Il y a une chasse à l'homme qui s'enclenche. Les bandits sont finalement coincés dans un cul-de-sac. Mais il y en a un des deux, aucune idée pourquoi, il aurait dû réussir à sauter la clôture qu'il y avait au bout du cul-de-sac.
Il saute.
Oui, puis il y en a un des deux. L'autre, par contre, Noël Cloutier, 24 ans, qui lui est capturé.
OK.
Mais finalement, il n'était pas juste deux, ils vont être trois au total.
Parce que notre ami Cloutier, bien notre ami, c'est pas notre ami pendant.
Non.
Mais il se met à table,
ouais.
Il donne le nom de ses deux complices. L'autre, l'autre qui était avec lui, c'est Douglas
Perrault, 28 ans, et Donald Perrault, 29 ans. Puis il y aurait apparemment aucun lien de parenté entre les deux.
C'est pas des frères.
Non.
OK.
Non. Quelques jours plus tard, les Perrault sont arrêtés, eux aussi, mais en Alberta.
Oh, ils sont partis.
Oui, eux autres étaient en train de commettre un autre vol en Alberta quand ils ont été arrêtés par la GRC.
Puis ils ont parti vers l'ouest parce qu'ils ne voulaient peut-être pas franchir la frontière au sud. Il n'y a pas de frontière entre les provinces canadiennes.
C'est ça.
Donc, ils étaient partis.
C'est ça.
Ils tentaient de voler de l'essence.
Là, on assiste à un premier procès du 23 au 26 novembre 1948. Tu sais, à cette époque-là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais les procès, ce n'est pas un an ou deux plus tard. Hein, c'est assez rapide.
Efficace.
C'est ça.
Des notes à prendre.
Oui.
On était comment expéditif. Peut-être trop.
Ben, moi, en tout cas, je peux pas parler pour de l'ensemble des procès.
Ouais.
Parce qu'il y a déjà une journaliste qui m'a déjà posé la question. Avez-vous déjà vu des erreurs judiciaires dans ce que vous avez lu? Dans ce que j'ai lu, moi, non. Il y a des petites irrégularités, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des petites irrégularités, que c'est une. Que ça va avoir une influence sur le verdict final.
Mm-hmm.
Tu sais, je sais pas, moi, il se trompe sur la couleur de l'auto, tu sais, comme on se disait déjà. Comme,
ah, il est non coupable.
C'est ça, c'est pas probant. Là.
Okay. Donc, on a un procès. Cloutier est devant le juge Wilfrid Lazur.
Oui.
Il est déclaré coupable du meurtre de l'agent Paquin et condamné à mort.
Oui.
On aura un autre procès pour Douglas Perrault.
Oui.
Et ça, c'est en décembre 48, et je vais me permettre de faire une petite lecture ici. À l'apparition de Donald Perrault dans le prétoire, qui avait accepté de témoigner pour la couronne, l'accusé s'est exclamé « V'là Donald le roi Perrault ». Comme aujourd'hui, mettons, les délateurs ne sont pas très appréciés par les criminels.
Ils ne s'aiment pas beaucoup.
Donc, c'est ça. Fait qu'il y a un procès de Douglas Perrault.
Et ça nous porte au 10 mars 1949. Là, on revient à Noël Cloutier, le premier qui avait été arrêté. Lui, il reçoit la visite de sa femme, sa jeune épouse, en prison, parce qu'il venait apparemment de... Même si c'est un coupable, c'est quand même spécial un peu. Il venait juste de se marier. Pas longtemps avant le crime, c'est ça.
Elle avait convolé en juste une noce.
Oui.
Mais puis, elle va lui donner une belle petite médaille.
Ben oui, une médaille, probablement une médaille 5, là, c'est ce que j'ai compris, pour qu'il porte à son cou la journée de l'exécution.
Et la dame est enceinte.
Oui.
Fait qu'il ne verra jamais son enfant.
Et voilà.
Il va être il monta sur l'échafaud et il en mourra.
Ouais.
17 juin 1949, ben là, Perrault.
Perrault.
Douglas.
Oui, Douglas Perrault est pendu. Et ce sera ensuite à Donald Perrault le 24 novembre 1949. Donc, les trois pendus pour deux policiers assassinés.
Tu parles d'assassinats de policiers dans le cadre de leur travail, dans le cadre de hold-up qui tourne mal. Il y a l'affaire Georges Marcotte.
Oui.
Alias le Père Noël. Vous vous rappelez du film Le Père Noël est une ordure? Moi, ce que j'en sais de l'affaire Georges Marcotte, c'est que le Père Noël était vraiment une ordure dans son cas.
Ouais.
Explique-nous, c'est quoi un vol qui se passe dans le temps des fêtes?
Oui, c'est le 14 décembre 62,
okay.
À Ville-Saint-Laurent.
Oui.
Il y a un premier bandit déguisé en Père Noël qui se présente à une succursale de la Banque de commerce.
Oui.
Et puis, bon, ben dans les premières secondes, parce que ça s'est quand même déroulé très rapidement, les premières secondes, les employés ne se doutent pas. Le Père Noël, dans le temps des fêtes, tout ça. Mais le Père Noël a sorti rapidement une mitraillette ou un pistolet mitrailleur, tout dépendant comment qu'on peut désigner ça. Et puis, bon, hein, il s'en vient là pour voler. Il y a deux autres complices aussi avec lui. Donc, il y en a un qui rentre, l'autre, on présume qu'il est resté dans l'auto. Et puis, l'appel est lancé sur les ondes. Puis il y a deux policiers qui s'en venaient en autopatrouille pour aller faire, apparemment, selon l'histoire, aller faire réparer leur radio dans la voiture patrouille.
Fait qu'ils se trouvent là. Il y a eu l'appel lancé aux forces de l'ordre, mais eux autres, ils passent par là.
Ils passent par là et on se dit, ben regarde, on va y aller, on va intervenir.
Ben oui.
Mais quand ils sont arrivés, ben le Père Noël en question, il est à loin d'être aussi jovial que son costume le prétendait, tu sais. Il a ouvert le feu, puis il a tiré les deux agents qui avaient pour nom Denis Brabant et Claude Marino, des pères de famille. Okay. Donc, ça fait deux victimes, un peu comme on a raconté notre cas de 48. Voilà. Fait que là, les bandits repartent. Ils vont être arrêtés, eux autres, plus tard, identifiés selon l'enquête. Le butin s'est quand même monté à 156 000 $ qui est pour 1962 quand même.
Quand même un bon montant.
Oui, puis on va donner une récompense de 26 000 $ offerte. Ça, c'est l'Association des banquiers. Ah. Parce que les autres sont vraiment outrés. Là,
du déroulement de tout ça.
Oui, c'est ça.
Puis de lancer un message qu'on est tanné de se faire voler.
Oui, c'est ça. C'est
on voudrait que ça arrête.
Malheureusement, on dirait que c'est la technologie qui... heureusement.
Oui.
C'est la technologie qui a eu finalement raison de ça. Parce
qu'à l'époque, il y a moins d'argent dans les caisses et dans les banques.
Oui, c'est ça.
Physiquement, là,
c'est
des
moins
billets,
attirant.
C'est ça. Le risque...
excuse-moi l'expression, mais il faut vraiment être stupide aujourd'hui pour aller voler d'une banque, là, tu sais. C'est pas...
Donc, c'est ça. Et c'est les gens qui vont être impliqués dans ce crime-là vont être traduits en justice,
je présume. Oui. Là, l'enquête va permettre de procéder aux arrestations de Jean-Paul Fournier, 39 ans, qui, lui, va dénoncer ses deux autres complices, dont Georges Marcotte, le supposé, parce que là, ça va être une partie du procès, ça va être le défi d'identifier qui était déguisé en Père Noël. Parce que là, ils vont se relancer la balle à
Zouti. C'était pas moi, c'était lui, OK.
Tu sais, ça a de l'air être une habitude chez les voleurs de banque, là, tu sais.
Comme M. Classique, c'est lui. Il y en a un qui il se dénonce, puis ils prennent pas responsabilité du geste qu'ils ont commis.
C'est ça.
OK.
Sauf que, bon, de fil en aiguille, même le père de Georges Marcotte va témoigner pour essayer d'y faire un alibi, comme quoi qu'il pouvait pas être là, tout ça.
OK.
Mais bon, Georges Marcotte va être condamné, puis ça va être lui qui va être identifié comme...
Le Père Noël.
Comme le Père Noël.
C'est ça.
Okay. Ouais. Et encore une fois, la couronne, notre ami Claude Wagner, qui plaidait. Ça, c'est intéressant, ça, quand tu lis ça, les plaidoiries, peu importe. Là, quand tu as un personnage comme ça que tu connais un peu, tu vois vraiment qu'est-ce qu'il a dit, les stratégies qu'il prend pour... Non, c'est vraiment intéressant, ça.
C'est un
bon plaideur.
Oui, oui.
C'est des bons plaideurs. Normalement, quand ils sont rendus là...
Oh, dans la Ligue nationale.
Oui.
On pas dans la Ligue senior semi-pro. Là.
Mais la particularité, c'est que de ce procès-là, il y a l'aspect du Père Noël, il y a l'aspect du double meurtre de policier.
Qui est spectaculaire.
Oui, mais il y a une autre affaire qui va ressortir, c'est que pendant que Fournel, lui, il a décidé, en tout cas, ça... Malgré son passé ou sa situation, il a de l'air quand même assez crédible. C'est comme le type de personne qui s'est dit « Bon, ben moi, gars, j'ai été pris, je raconte tout. »
OK.
Puis à un moment donné, il raconte un autre vol de banque qu'il avait planifié, mais sous la responsabilité, sous l'instigation de Maître Constantin. Mais Maître Constantin, il est dans la salle.
Fait là, que lui, fait... il témoigne, il dit, moi, je vais me libérer.
Oh oui,
l'arme.
C'est ça.
J'avoue mes péchés.
Puis là, il dit, cet autre vol de banque-là, pas celui du Père Noël, un autre avant, il dit, ben oui, nous autres, on l'a fait à l'instigation de Maître Constantin, qui est dans la salle, parce que là, il plaide, il défend les accusés. Alors, ça fait un scandale. Puis Maître Constantin, premièrement, le juge le renvoie du procès. Oui. Tu plaides plus ici, c'est fini.
Mais a-t-il été traduit en justice, cette
année? À ma connaissance, non, okay. D'après ce qu'on en sait, mais il s'est exilé en Europe, puis là, on perd sa trace.
Ah, bon.
Apparemment, il a été déchu, là. Ouais. Mais c'est quand même particulier dans un procès, tu sais.
Il a peut-être été faire le chemin de Compostelle.
Peut-être.
Qui sait? Peut-être. Donc, ça met fin à notre volet sur les hold-up qui ont mal tourné. Tu vas nous parler d'un cas non résolu. Vous allez dire, ah, ils en ont déjà parlé. Des cas non résolus, il y en a beaucoup. Puis il y en avait un qu'on trouvait intéressant d'aborder, lui donner de l'espace. Parce qu'on le dit, on le redit, un crime, ça se déroule dans un contexte social, historique, économique. Mm-hmm. Et cela, moi, je trouve ce cas-là de l'abbé Delorme, mm-hmm, illustre particulièrement bien comment une société, des fois, sa justice va être influencée par des puissances. Qui ne sont même pas occultes.
La justice élastique, peut-être.
Oui, exactement. Fois, hein? Donc, on va s'intéresser à l'abbé Delorme. Mais nous, en contexte, c'est l'abbé Delorme, c'est un curé, ça?
Oui.
C'est en 1922.
Oui, là, on est en 1922.
On est à Montréal.
Oui. Juste pour resituer, on est à 2 ans après l'affaire Blanche-Garneau. Je le dis parce qu'il y a des personnages qui ont été impliqués dans les deux affaires.
Ben oui, ben oui.
Donc, on est le 7 janvier 1922. Il y a un employé de la ville qui, tout bonnement, en se rendant dans un petit hangar... pour ses outils, découvre le cadavre d'un homme au sol, dans la neige, parce que là, on est en janvier. Hein, on comprend qu'il y a toujours de la neige, sauf exception, en janvier au Québec.
Normalement.
Oui. Le cas, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il a les mains liées derrière le dos. OK. Sa tête, autour de sa tête, il y a un manteau d'attaché.
OK.
Puis quand les policiers vont le développer un petit peu par la suite, il y avait comme un piqué, là. Tu sais, ce que nos grands-mères faisaient, un genre de couverture, un piqué. Là.
Ouais.
Il y avait ça d'enroulé autour de la tête aussi, en dessous du manteau, qui était imbibé de sang, parce que l'autopsie a déterminé qu'il avait été tiré de plusieurs projectiles dans la tête et dans le cou, dans la région du cou et de la tête. Et, évidemment, l'enquête démarre. Là. On s'entend que c'est un meurtre. Là.
C'est pas un accident.
Non.
C'est pas quelqu'un qui a perdu pied.
Non.
Hein? C'est vraiment un meurtre.
L'enquête de départ va vouloir d'abord identifier le corps.
Oui.
Là, les policiers, avec le corps, on trouve, je ne me souviens pas par quel détail, mais on réussit à remonter qu'il y avait un lien avec l'adresse du 190 rue Saint-Hubert à Montréal. Et là, les policiers arrivent et tombent face à Adélard Delorme, qui est un prêtre.
Qui porte la soutane, comme c'était le cas à l'époque.
Oui.
Pas juste un petit col romain. Là.
Non, non.
Je suis prêtre. Ouais,
Les jeunes vont peut-être moins...
Oui, on va avoir des images à l'appui, je présume.
Oui, oui.
Donc, les soutanes...
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, à l'époque, il faut vraiment comprendre que le clergé, c'est très puissant.
Oui.
Tu sais, les jeunes n'ont pas conscience de ça aujourd'hui. Même moi, là, je suis né, j'ai grandi dans les années 70, puis c'était plus très...
Moi, j'ai eu des religieuses qui m'ont enseigné.
OK.
J'ai été dans la dernière, j'allais dire, batch de ça, mais les sœurs qui m'ont enseigné, ou j'ai eu des prêtres qui m'ont enseigné, moi. Okay. J'étais dans le secteur public, mais ils ne portaient pas de signes religieux.
Oui. Hein?
On est dans l'actualité.
Oui.
Donc, on va prendre une petite pause, bon Éric, puis là, on va revenir avec l'histoire de l'abbé Delorme, qui est un prêtre et qui va identifier le corps de son jeune frère à la morgue, parce que notre victime, c'est le frère de Delorme.
Et voilà.
On revient après la pause.
Chez Enviro Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Enviro Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes déboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Enviro Connexion. Ma route, mon succès.
Donc, on a la baie de l'homme. On a un corps de retrouvé tué.
Oui.
Et là, on demande à la Délard de l'homme, parce qu'on a trouvé une adresse sur le corps, et s'il va identifier son frère à la morgue.
Et même l'identification, il y a des témoins qui vont dire par après qu'il y en a qui ont trouvé le prêtre très froid.
Ah!
Très, très froid. Tu sais, j'identifie le corps, je le bénis.
C'est mon frère.
Oui, c'est ça.
Pas de larmes, pas de...
Non, pas du tout, du tout, du tout.
Pas de rage, pas de...
Non.
OK. On garde ça en tête.
Oui.
Et là, il y a une enquête du coroner, évidemment. Il y a une mort violente.
Oui.
Il y a une enquête du coroner qui s'enclenche.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on conclut?
On conclut que la victime s'est fait tirer par derrière.
Oui.
Alors qu'il était probablement soit à genoux ou assis. Et bon, le coroner, il n'y a pas tous les éléments non plus pour conclure tout de suite. Donc, c'est reporté. Puis ça arrivait quand même assez régulièrement. Là. On parlait de l'affaire Blanche-Garneau. L'enquête de coroner s'est déroulée pendant un mois. Ce n'est pas nécessairement juste une journée.
Puis il veut bien faire, comme aujourd'hui, le coroner veut bien faire son travail.
Ouais, c'est
pas
ça.
De course, là.
Non. Puis lui envoie, là, il oblige la police à dire, bon, mais ça me prend plus de preuves. Uh-huh. Donc, vous allez faire votre travail. Et c'est là qu'il embarque dans l'histoire Georges Farah-Lajoie, qui, lui, était un détective ici, très bien vu. Là, il avait résolu des crimes, pas des meurtres, mais d'autres types de crimes. C'est un individu qui était très instruit pour son époque, qui était en conflit permanent, qu'on disait, avec la pègre, parce que c'était un incorruptible.
C'était un polyglotte.
Oui, il parlait 7 langues.
Je sais. Qu'est-ce que ça veut dire, polyglotte? Je voulais en profiter. Donc, il parlait de 7 langues. Quand tu dis enquêteur, ce n'est pas un détective privé.
Non,
c'est un policier de Montréal.
Pour la ville de Montréal.
D'origine syrienne.
Oui, mais qui, on va le préciser tout de suite, parce que ça va avoir une importance tantôt. Il est d'origine syrienne, mais il est catholique.
Ah,
pratiquant. Okay.
Parce que là, on comprend le prêtre, tout ça. Ça aurait mal passé qu'un juif ou un protestant accuse un prêtre catholique d'avoir fait quelque chose.
Ça va être mal vu quand même.
Oui.
Mais,
mais si tu le précises, c'est parce qu'il y a une importance. Oui,
voilà.
Éric, il ne parle pas pour rien dire. Hein? On le sait.
C'est
moi qui ai dit, je sais.
C'est ça.
Donc, un bon enquêteur.
Oui, puis lui, en se mettant dans le dossier, il va l'approfondir un peu plus. Parce que déjà, on avait des éléments tantôt sur la scène de... Je dirais pas de scène de crime, scène de découverte.
Oui.
Parce que lui, il va arriver à la conclusion que le crime ne s'est pas produit là.
OK. Le corps a été transporté là.
Oui. Okay. Dans ce cas-là, parce que, dont certains éléments, je ne les ai pas tous notés, là, mais qu'il n'y avait pas de couvre-chaussure ni de chapeau pour un temps froid. Tout ça paraît banal, mais ça commence...
Oh oui.
Qu'il n'y avait aucune trace non plus de lutte sur place.
Okay. Okay. Parce que tu reçois des coups de pique à la tête.
Il y aurait eu du sang, peut-être.
Tu vas te défendre.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, pourquoi envelopper la tête sur place aussi? Tu sais, il y a des choses... Là,
on peut penser que l'enveloppement des sources... Je ne veux pas être macabre, mais du fait que ça saigne, on a enveloppé ça pour pas qu'on traîne du sang traîner.
Voilà.
Ce qu'on n'aurait pas besoin de faire si le meurtre s'était commis sur place.
C'est ça. Puis même les mains attachées dans le dos, selon le type de blessure que ça laissait, il a compris, lui, que ça avait été avec l'aide aussi de Wilfrid de Rome, là, qu'on va y arriver. On en avait parlé un petit peu, mais selon le type de blessure, c'est comme si les mains avaient été attachées après la mort.
OK.
Donc, pas pour le maîtriser, mais pour mieux le transporter.
Okay.
Ouais, c'est ça.
On l'a ficelé.
Oui, exactement.
Je comprends.
Et il n'y a aucune trace non plus du passage de la balle. Ça, c'est un autre élément, parce que dans le veston, il y avait un par-dessus, un veston comme moi j'ai, là, mais avec un par-dessus.
Okay.
Il y avait un trou dans le col du veston, mais pas dans le par-dessus.
Ah, fait que le par-dessus était mis par après.
C'est ça.
Parce qu'il aurait fait un trou.
Et voilà.
OK.
Donc, ben, tout ça amène les enquêteurs, dont principalement... Farah-Lajoie, à interroger et aller voir M. Delorme.
Parce que le Delorme en question, il restait avec son frère.
Oui, il habitait avec son frère. Son frère, la victime, Raoul, était étudié à ce moment-là à l'Université d'Ottawa depuis un an ou deux. Okay. Il était sur le point de finir dans l'été qui s'en venait, dans l'été 1922. Et puis, dans l'été qui s'en venait, lui, étudiant en finance, ou je ne sais pas trop. Okay. Bien là, il s'en allait prendre vraiment l'héritage. Il prenait, parce que son père était décédé quelques années plus tôt, et l'héritage lui était destiné, mais pas avant telle date.
Okay.
Donc là, en 1922, à l'été, il était sur le point de prendre le contrôle de tout l'héritage.
Puis là, je vois, deuxième, c'est Alice, là. C'était qui?
Le deuxième.
Ben là, il y avait le fils, le celui qui étudiait en finance.
Ouais.
On peut présumer que le deuxième qui allait pogner l'héritage, ben, c'était l'abbé de l'or.
Ben voilà. Ah. Voilà. C'est lui qui la gérait déjà.
Okay.
Déjà qui dépensait beaucoup, alors que Raoul, la victime, dépensait très peu.
Okay.
C'était quelqu'un de très, très.
Fait qu'il était une petite pause de cash.
Voilà.
Ça ressemble à ça.
Voilà. Okay. Déjà, tu sais, quand les policiers l'ont rencontré, c'était quelqu'un qui avait toujours des petits bonbons à la menthe, tout le temps, il en offrait à tout le monde. Il fumait des cigares, il conduisait une voiture.
De luxe.
Oui, assez bien mise. Il a invité. Puis, tu sais, il y avait des drôles de réactions. Il répondait, c'est ce genre de, un peu comme on parlait de Marcel Bernier, quelqu'un qui va répondre aux questions qui ne lui sont même pas posées, qui parle trop.
Okay.
Vraiment. Normalement, tu sais, un avocat de défense va dire devant un policier.
C'est quoi le vœu? Il y a le vœu de chasteté quand tu es prêt.
Ouais.
C'est ça.
Mais lui, il n'avait pas l'air à les respecter beaucoup. Okay. Il y avait des dépenses très élevées. Au procès, par la suite, ils ont déterminé que ces dépenses étaient plus importantes que les revenus. Donc, tu sais, c'était une autre motivation.
Okay.
Et puis, c'est ça, à un moment donné, il invitait les policiers chez lui à dire « Bon, bien, voici la chambre de Raoul, voici ma voiture, voici le revolver dans le coffre à gants de ma voiture. » Et il y a même une réplique marquante dans ça, c'est qu'il a fait descendre les policiers dans la partie
cave.
De la fournaise, ouais, okay. Où ce qui était la fournaise. Puis il a dit « Ici, là, il dit, il peut pas avoir de crime qui a été commis parce que personne n'aurait rien entendu chez les voisins. »
Tu sais, par chez nous, on dit « il faisait le smat ». Jouer au smat.
Oui, c'est ça.
Je montais ma gang d'épais de police. Moi, je sais, puis il riait de ça.
Puis il s'est contredit sur plusieurs détails. On n'ira pas sur tous les détails. Mais entre autres, il y avait l'arme qu'il a présentée aux policiers. Il disait qu'il la possédait depuis 5 ans, que ça avait été légué par son père, alors que ce n'était pas vrai du tout. Eux autres ont réussi à remonter à l'armurier qui lui avait vendu, je pense, c'est même pas un mois ou deux avant le meurtre.
Puis là, dans son... je vais qualifier de délire.
Oui.
L'abbé, il dit, moi, je vais offrir une récompense au public pour élucider le meurtre.
Oui, alors que Farol a joué peu de temps avant, il avait dit, faites pas ça, puis adressez-vous pas à la presse. Mais lui, il fait le contraire.
Allez. Fait qu'il fait un show.
Ça. Oui, c'est ça.
Et le Farol, la joie,
oui.
Il va découvrir quelque chose dans l'appartement de l'homme. Il trouve des claques.
Oui, des claques qui correspondent à la pointure de Raoul, la victime.
Qui sont là.
Oui.
Puis qui n'ont pas affaire là.
Non.
Puis là, si on se rappelle que notre victime a été trouvée en plein hiver au mois de janvier.
Pas de claque.
Pas de claque.
Il y a quelque chose qui ne marche pas.
C'est les claques.
Parce que dans la reconstitution des événements, de ce que l'abbé disait de son frère pour expliquer la soirée de la disparition, il disait que son frère est allé au cinéma avec des amis, qui avait appelé à un moment donné à la maison pour dire « Ah, je ne rentrerai pas ce soir ». S'il était sorti de son propre gré pour aller au cinéma, bien, normalement, il aurait mis ses claques pour ne pas abîmer ses chaussures.
Pas avoir froid.
Bien, c'est ça, exactement. Oui.
Fait que... fait qu'il était chez l'abbé Delorme.
Oui. Il a été, selon le scénario qui va s'établir tranquillement par Farol à Joie, parce qu'au procès, c'est ça qu'ils vont essayer d'établir, c'est qu'il a été tué vraiment dans l'appartement du 190, là, par l'abbé Delorme.
Fait que là, Farol à Joie, pas un cadre. Mais il comprend, il y a des jeux pour voir, puis il commence à soupçonner très sérieusement l'abbé Delorme.
Oui.
Puis là, il va s'engager un genre de combat.
Oui.
Un combat entre lui puis l'abbé Delorme, puis l'abbé Delorme va être appuyé par le clergé.
Oui.
Parce que le clergé, qui emmène très large au Québec à cette époque-là, mm-hmm. On est bien avant la Révolution tranquille.
Oui, oui.
Hein, on est avant 1960, pas mal. Puis, tu sais, on parle sérieusement, tu sais, mm-hmm. des cas d'abus. Il y en a eu, des abus sexuels.
Ben oui, ben oui.
Puis les parents, ils se faisaient rapporter ça par les enfants. Puis ils disaient, ça se peut pas, ça se peut pas. Un prêtre peut pas faire ça.
Ouais, l'image était tellement trop forte que
oui.
la population n'était plus objective à ce moment-là.
Oui.
Tu sais, un curé, ça pouvait pas rien commettre là.
Donc, le clergé... Oui. Va embarquer dans l'enquête,
oui.
Pas dire.
Tellement que, tu sais, à un moment donné, il a été incarcéré, l'abbé Delorme. Il a fini par être arrêté parce que Farol à Joie s'est battu beaucoup pour essayer d'avoir un mandat d'arrestation parce que le coroner de l'époque, il ne voulait pas se mêler à ça. T'sais, il avait peur, lui, ici, du clergé, là, j'imagine. Mais Napoléon Séguin, qui était le gouverneur, tu sais, on disait gouverneur de la prison, mais c'est comme le directeur de la prison, dans le fond. Et il va le traiter aux petits soins, là, l'abbé de l'Orme. Tu sais, des bons repas, puis une cellule à part tranquille, puis il l'invitait même à manger dans son bureau. Puis quand il y avait des déplacements à faire jusqu'au palais de justice, il ne faisait pas transporter dans le fourgon cellulaire. C'était dans la limousine de M. Séguin.
Ah, hein, fait ouais. Il était emprisonné, mais il y avait un traitement VIP.
C'est ça, exactement.
VIP.
T'sais, d'un directeur de prison venant d'un personnage comme ça, tu sais, il me semble que c'est
particulier.
Ouais.
Puis, la presse, le journal La Presse.
La presse, oui.
Mais les médias d'époque, qui sont parfois contrôlés par le clergé, on va se servir des médias pour faire fesser sur Farah Lajoie.
C'est ça. Tu sais, c'est une époque, des fois, on en parle. En tout cas, moi, je suis confronté à ça dans mes recherches souvent parce qu'il y a des erreurs entre ce qui est écrit dans un procès et dans les journaux. Des fois, c'est des erreurs de bonne foi, là. Tu sais, mais là, c'est des erreurs de mauvaise foi, vraiment. Les journaux sont biaisés. Là.
Parce que là, on va embarquer, parce qu'évidemment, les médias, actuellement, ont une certaine réserve. Mm-hmm. Moi, j'ai déjà couvert quelques procès, puis j'avais une crainte. Moi, je voulais pas avoir un outrage au tribunal.
Non,
là,
moi,
tu
je
marches
comprends.
Sur des... Tu reçois une lettre d'un juge qui dit que t'as pas bien agi. Moi, je ne tente pas de recevoir
ça.
Puis les médias, habituellement, ont certaines réserves. Hein.
Ouais.
On va s'en tenir à rapporter les faits.
Ouais.
Par la suite, on peut avoir de l'analyse. Mais là, il va se passer que la presse, eux autres,
ah oui, ils vont
le grand journal,
oh oui.
va dire de l'homme est inapte.
Ils disent déjà le verdict avant même que le procès commence.
Fait qu'eux autres, ils sortent d'un médias, ils sortent dans le journal en disant ça.
Ben oui.
C'est assez biaisé.
Oui, c'est assez biaisé.
C'est un job de bon.
Oui, puis même, ils sont allés, je ne l'avais pas noté, mais ils sont allés jusqu'à faire une campagne de salissage à l'endroit de Farah Lajoie, parce que là, tu sais, comme tu disais tantôt, un catholique, mais lui, peut-être pensait à Farah Lajoie que ça le protégerait un peu, un catholique contre un catholique, là, tu sais. Puis il était pratiquant à cette époque-là. Là.
Oui.
Il allait à la messe apparemment de façon régulière et tout ça. Mais là, dans les journaux, ils vont dire que non, c'était un musulman. Ils vont même sortir une...
Mais
oui! Là, ben c'était mal vu à l'époque.
Ben oui,
là,
ben oui,
bon.
Ben oui. C'était un étranger
un
qui
étrange.
Vient fait mal à nos Canadiens français.
C'est ça.
Il y a du racisme là-dedans.
Carrément.
Oui, oui.
Carrément.
Ça dit.
Oui, oui, c'est ça. Puis ben, ils sont allés jusqu'à sortir une photo. Si ma mémoire est bonne, dans le livre de Jean Monnet, c'est une photo qui a une grande... soutane, tu sais, Farah Lajoie. Puis c'était apparemment que ça a été établi après, ça n'avait même pas rapport avec les pratiques musulmanes, c'était dans un party.
Il s'était costumé.
Ouais, une affaire de main, tu sais, vraiment, là, c'est vraiment les mauvaises intentions étaient là.
OK. Fait qu'on fait une job de bras.
Ouais.
Et on va quand même en procès.
Oui.
Le 15 juin 1922. Fait que là.
Là, je le souligne.
Oui.
Premier procès.
Oh, premier procès.
Premier procès.
Parce que là, l'enjeu, c'est, on veut savoir si de l'homme peut subir son procès. Mais
c'est
sur
ça.
Quoi qu'on s'astine? On ne peut pas traduire un prêtre en justice? C'est pas ça?
Bien, c'est pas dit directement comme ça. Mais tu sais, c'est vraiment ben, regarde, la défense, là, en premier, vont faire un genre d'historique parce que, à cette époque-là, déjà, on pense que l'hérédité, c'est vraiment un élément pour la folie. Là. Tu sais, c'est héréditaire.
Si tu as eu des parents qui ont eu des problèmes de santé mentale, tu as hérité de ça.
Ils ont fait pareil avec Marianne Houd, entre autres. Ils ont essayé de tout ça. Mais dans ce cas-là, ils vont en trouver 14 personnes de son entourage qui ont déjà eu des séjours en psychiatrie ou peu importe, des choses comme ça. Là.
Fait que là, on axe sur l'aliénation mentale. On reconnaît que c'est lui.
Le procès.
Pas encore.
Ça devrait pourtant. C'est ça qui me surprend.
On a un premier procès où on va plaider le fait qu'il est inapte à subir un procès parce qu'il y a.
Parce qu'il
n'y
a pas toute sa tête. Ça, on va évoquer tout ce que j'ai raconté tantôt, mettons ses interventions dans les médias, ses contradictions. Tu sais qui.
Son comportement erratique.
Oui, c'est ça, exactement.
Fait que là, il est déclaré inapte.
Oui.
Fait que il est non coupable.
Oui. Fait que là, il s'en va, on disait à l'époque, à l'asile. Aujourd'hui, on dit que c'est péjoratif. Moi, je l'utilise encore vraiment.
Ben,
sans...
Dans ce temps-là, ça s'appelait un asile.
Bien, c'est ça.
C'était pas un hôpital psychiatrique.
Parce que quand on était en histoire, tu sais, on parlait de la cause de Noël François tantôt, la SQUA. Mais c'est écrit comme ça.
Oui.
Je n'irais pas dire, mais c'est la SQUA.
Bien, c'est symptomatique de l'époque.
C'est ça, exactement. Fait que regarde, c'était un asile. Il s'est retrouvé à l'asile de Saint-Michel-Archange.
Ça, c'est Saint-Michel-Archange, c'est dans le fond, Giffard.
Oui, c'est ça.
J'ai vu l'hôpital Giffard aujourd'hui.
Même en disant, je pense, à une certaine époque, si tu vas pas bien, va te faire soigner à Beauport. Là. Il y avait des expressions quand tu étais jeune, à l'asile de Beauport, en tout cas.
J'ai déjà visité l'hôpital Giffard.
Ah oui?
Ah, c'est fascinant.
Okay. Ah oui?
Ah oui, j'étais en contact avec un organisme de défense des droits des gens atteints de maladies mentales.
OK.
Et le monsieur qui s'occupait de l'organisme m'avait fait visiter.
Ah oui?
Et c'est très troublant.
Ah oui?
Même au jeu, ben, ça fait une dizaine d'années que j'ai visité. Là.
OK.
C'est pas un lieu qui appelle à la bonne humeur.
Non, ça ne doit pas, hein?
Non, non. Puis je vais te faire un lien. Maintenant, je sais pas si ça fait une quinzaine d'années, là, ça a peut-être changé, mais j'étais justement récemment dans un hôpital où on dévoilait une toile. Une toile, puis je trouvais ça intéressant. Elle était très vivante, la toile. Okay. Plein de couleurs, c'était deux mains, une main de, visiblement de personnes âgées qu'une main de jeune personne.
Okay.
On illustrait l'entraide, puis je jasais avec une gestionnaire du système de santé pour le CIUS Centre du Québec, Mauricie, puis elle disait, c'est une tendance. On veut rendre les hôpitaux, okay. parce qu'on va à l'hôpital, mais plutôt, c'est pas parce qu'on va bien. Ou c'est pas parce qu'on va voir quelqu'un qui va bien.
Non, moi, je ne vais pas là parce que j'ai du temps à tuer. Là,
donc, les murs parlent et de plus en plus, on tend à rendre ça joyeux.
Okay.
D'avoir de la lumière, de la couleur.
C'est bon.
c'est pas une mauvaise chose, tout ça. Mais à Giffard, là, on n'était pas dans la lumière, on n'était pas dans le bonheur. Puis c'est un très vieil édifice.
Oui, c'est ça, c'est ancien.
Il y a un musée là-dedans. Je ne sais pas s'il est encore accessible, mais un musée dans le haut, en haut. Et on a des appareils, là, des appareils qui ont servi à faire des électrochocs, des outils de contention.
Un musée qui est ouvert au public?
Oui, Mais en tout cas, moi, à l'époque, on pouvait le visiter. Là.
OK. Fait
que, non,
c'est quelque chose qui est.
Fait que je referme la parenthèse. Ouais, donc, il s'en va à Beauport, à Giffard.
Oui.
Et les journaux font encore la job de bras du clergé.
Ah ben oui.
Parce que là, on a amené en cour un homme, une soutane noire.
Oui, c'est ça.
Un prêtre, c'est comme un crime, c'est un péché.
C'est ça. Puis lui, ben, de son côté, Farah Lajoie, le détective, il est resté sur son appétit un peu. Fait que ce qui arrive... Moi, je pense que c'est un peu, dans le contexte d'aujourd'hui, avec nos façons de procéder, ça serait considéré comme une erreur. Est-ce que c'est une erreur? Je ne sais pas. Mais lui, il a décidé de publier sa version. Il a fait un livre.
Parce qu'il entend, ça se parle, oh, de l'homme va être libéré, il va mieux.
La rumeur grossissait tout le temps.
Puis lui, on peut dire, comme tu disais, c'est un incorruptible.
C'est ça.
Puis je pense que ça l'a aidé qu'il n'était pas d'origine québécoise directement.
Oui, peut-être.
Il était peut-être moins teinté là-dessus.
Oui, peut-être.
Et du moins, il ne ferait pas rire de moi, je vais dire l'histoire.
Ouais.
Je vais aller...
Mais lui, à cette époque-là, moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est au moment qu'il a publié son livre, il devait peut-être... Est-ce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait d'autres poursuites judiciaires, d'autres procès?
Okay.
Parce que peut-être que lui, il pensait que c'était fini là, puis il voulait donner sa version.
Ouais.
Parce qu'après ça, ça va inouer, il va y avoir d'autres procès. Puis là, le livre est publié, il est trop tard. Puis quand, tu sais, je veux dire, son avis était publié, là. Donc, lui aussi s'est mis dans une condition qui était biaisée, à quelque part, comme enquêteur.
Il va avoir un deuxième procès.
Oui.
Et c'est devant quelqu'un, François Lemieux. L'histoire a peut-être oublié son nom, mais elle n'oubliera pas qui l'a eu comme client. Il y a eu Louis Riel comme client.
Oui, c'est pas rien.
Le chef métis.
Qui
est malheureusement pendu.
Oui.
Donc, Louis Riel, François Lemieux, c'est quelque chose quand même.
Oui,
tu travailles pour Louis Riel. Puis là, on est en quelle année? Le temps passe. Parce
là,
que là, Riel, c'est fin 20e siècle, c'est là.
On est en
1922.
Oui, 1922,
Oui. Donc, Lemieux, c'est le juge du deuxième procès. Puis là, on a fait appel à un témoin, Pierre-Émile Lalime. Puis qui dit avoir entendu une voiture en marche dans le garage de Delorme vers 22h45, le soir du meurtre.
Oui, parce que lui, selon ce que l'abbé Delorme avait expliqué dans le contexte, tu sais, les heures précédant à peu près à l'heure du crime, parce que l'heure du crime, vu que le corps a été découvert au matin, ça a été présumé par l'autopsie puis tout ça. Mais lui, le voisin, Lalime, il était vraiment voisin. Puis de la façon que c'était fait, c'est que si la voiture de Delorme était en marche, il l'entendait de l'autre côté.
Mm-hmm.
Fait qu'avec les heures qu'il disait, ça correspondait plus. Ça contredisait encore l'abbé Delorme.
Okay.
Donc, tu sais, les contradictions s'accumulaient encore.
Malgré son livre,
oui.
Parce que Farah Lajoie, on se comprend qu'il a fait un livre
oui.
pour dire sa vérité.
Sa vérité, oui.
Il va témoigner.
Oui.
Comment il est accueilli, ce témoignage-là?
Assez mal au début, parce que ça même la défense demandait carrément ce qu'il témoigne pas.
Okay.
Là, il y a eu un débat juridique dans tout ça.
Est-ce qu'il est apte à témoigner?
Ouais.
Il a fait un livre.
Parce que là, son opinion, t'as connu. En tant qu'enquêteur, normalement, t'es pas censé, même si on s'en doute un peu.
C'est pas commun, ça.
Non.
Même aujourd'hui, d'un policier en action, qui est en service, qui écrit un livre.
Puis sur une affaire en particulier, c'est rare. Ouais, c'est vraiment rare. Tu sais, les policiers qui écrivent aujourd'hui,
il y en a,
mais je veux dire, ils vont écrire, ils savent qu'est-ce qu'il faut écrire ou non. Là. Mais écrire comme il a fait, aller vraiment dans le détail, peut-être qu'il s'exposerait.
As-tu déjà lu son livre?
Non, mais je le cherche. J'en ai eu des bribes dans l'affaire Jean Monnet. Ouais. Le livre de Jean Monnet, il y en a plusieurs, mais il est très dispendieux.
Si vous trouvez ça, vous voulez faire un leg. Éric est preneur. Donc,
laissez mon adresse courriel.
Farah Lajoie témoigne.
Oui.
On va appeler à la barre aussi des spécialistes. Puis là, on voit entrer, je dirais, des termes qu'on connaît maintenant, mais qui sont un peu, je dirais...
C'est... La balistique
qui
commençait.
On va appeler des témoins experts, des gens spécialisés en balistique.
Oui.
Donc, une balle, qu'est-ce que ça fait quand ça rentre, ça ressort.
Parce que là, la trajectoire, Monsieur de Rome qui revient, celui qui a créé l'Institut médico-légal à Montréal, lui témoigne, puis là, il explique vraiment.
De Rome. OK, non, Wilfred.
Non, c'est ça.
Aucun lien de parenté.
Ben, des fois, quand j'écrivais mes notes, là, si je fais un livre là-dessus un jour, là, je fais attention.
Oui, mais il y a une lettre de différence.
Oui. Donc, lui, il explique vraiment, c'est pour ça qu'on en vient à la conclusion que la victime était soit à genoux, ce qui suggère une exécution carrément, un peu comme les Allemands faisaient, là, ou soit assis. Parce qu'il y a un angle vraiment de haut vers le bas et d'arrière vers l'avant. Donc, dans le crâne, dans le...
C'est soit quelqu'un il était à genoux ou le gars mesurait 8 pieds puis l'autre mesurait 5 pieds.
C'est ça. Parce que ce que Farah Lajoie avait découvert aussi dans l'appartement de l'abbé, c'est pas juste les claques. Il avait découvert deux bouteilles de chloroforme, dont une était presque vide.
C'est chloroforme qui permet d'évanouir quelqu'un.
Exactement. Oui. Fait qu'est-ce qu'il l'a un peu... chloroformer pour le mieux l'assassiner après, là. C'est toutes des suppositions.
Puis on va même faire appel à des témoins américains.
Oui, parce que là, la défense ne sait plus quoi faire. Parce que là, ça regarde mal, là, vraiment, à cette heure que l'abbé est considéré...
Puis on a prouvé que les balles venaient peut-être sûrement de son fusil.
Oui, c'est le même calibre, même chose. Puis ce que le docteur de Rome disait, c'est ça, avec sa balistique, puis les stries des canons, les traces que ça laisse et tout ça, on ne rentre pas dans les détails, mais ça provenait de l'arme de l'abbé.
Mais c'est juste qu'il n'y a pas une arme dans le monde qui va faire les mêmes tracés sur une balle quand elle est projetée.
C'est
les lignes qui vont se faire vont différer d'une arme.
Il y a même, selon les marques, ben ça, je puise mon expérience dans d'autres causes aussi, selon les marques, mettons Colt, Smith & Wesson, etc., le canon, l'intérieur du canon, il y a des codes de manufacturiers qui vont dire, bon, ben les stries pour les côtes sont vers la droite, puis il y en a cinq, mettons. Là, fabule un peu.
Oui.
Et le Smith & Wesson, ben ils vont aller vers la gauche, puis il y en a six.
Ils ont des signatures,
armes
à feu.
OK.
Ça aide.
Oui, ça aide les enquêteurs, surtout.
Ce qui serait mieux, c'est un monde pas d'armes à feu.
Et voilà.
On peut rêver.
Et voilà. mais là, la défense ne sait plus quoi faire, donc ils vont aller chercher un supposé témoin expert qui, lui, va venir défaire tout ça. Mais là, pendant son témoignage, le procureur de la Couronne se rend compte, ce témoin-là, il me dit quelque chose. C'est un dénommé Hamilton. Puis il dit, ce témoin-là me dit quelque chose. Fait que là, il gratte. Puis avant que le témoignage se finisse, il réussit à savoir c'est qui. C'est un imposteur, carrément, qui avait été banni aux États-Unis. Comme quoi, il n'était pas expert du tout en balistique. Il allait, excuse-moi l'expression québécoise, mais il allait scraper d'autres procès aux États-Unis. Et puis, bon, finalement, ça se finit qu'il y a 173 témoins. Pour 32 jours de procès, c'est gros, là.
C'est assez béton. Ouais. 173 témoins, c'est quelque chose.
Oui, c'est quelque chose. Puis ça se finit par un verdict de désaccord. Le jury tombe en désaccord. Le juge les oblige à aller, essayer de faire un effort pour...
À retourner faveur de voir.
Oui, parce
qu'il se présente en cours, on n'est pas d'accord, nanana. À retourner aussi, pensez-y encore.
Essayez encore un petit peu, forcez-vous, tu sais. Mais non, ça donne absolument rien.
Et à l'époque, on revient encore au contexte historique de trouver des jurys qui étaient impartiaux par rapport à la religion. Ça ne devait pas être facile.
Non.
C'est peut-être ça qui explique un peu
D'après moi, oui.
Les dilemmes, les chicanes dans le jury.
C'est ça, oui. Tu sais, c'est pas comme. C'est vraiment une grosse institution pour l'époque.
Oh oui.
Ça ne pouvait pas toucher. Sûrement qu'il y avait des athées un peu, là, quelques-uns. Mais il ne devait pas en avoir beaucoup. Là,
en tout cas, les gens qui s'affichaient.
Ou même si tu étais athée, tu n'avais quand même pas de la machine qui était en arrière de ça.
Des gens anticléricaux, c'était rare.
Oui.
Affirmés, c'était rare.
Oui,
c'est venu un peu plus par la suite, le refus global, tout ça.
Oui,
mais on était loin de ça.
Oh oui.
Donc, il y a un autre show.
Oui.
Le procès n'aboutit pas à une condamnation.
C'est ça. Fait que là, l'abbé retourne encore dans le luxe et son confort de Prout de Bordeaux.
Oui.
Parce qu'il est gros dur avec le directeur Séguin.
À Bordeaux-Rico.
Oui, c'est bon.
Il manque juste le soleil.
Et voilà.
Il est tout inclus, Club Med, en tout cas.
Ouais. Là, il faut attendre.
Il n'a pas perdu du poids, là, de l'homme.
Non.
Il n'a pas eu de misère, là.
Non. Ah, je pense qu'il avait même accès à ses cigares. Tu sais, c'est quelque chose. Ah non, c'est écoute.
Donc, troisième procès.
Troisième procès. Là, on est en 1924, mais là, tranquillement, le procès, là, je veux dire, l'affaire, il y a quasiment de curieux qui y vont. Là. Tu sais, vraiment, ça commence à désintéresser le public. Les avocats changent un peu. Il y en a qui sont un peu tannés. Il y a quand même des grosses pointures là-dedans là, qu'on peut nommer. Maître Alban Germain et Maître Lucien Gendron aussi, qui était assez, assez à côté, comme on dit. Donc, la seule nouveauté qu'il y a là-dedans, c'est le témoin Ernest Leblanc, qui, lui, était comme l'employé de l'abbé pour la fournaise. Puis, encore une fois, il vient le contredire, parce que l'abbé disait qu'il n'avait pas touché à sa fournaise. En tout cas, bref, ça vient encore incriminer l'abbé, mais encore une fois, on tombe avec un verdict de désaccord de jury. Donc, on s'en va vers un quatrième procès, mon ami.
Quatre procès pour un meurtre.
Oui.
Puis, comment qu'il finit, ce procès-là?
Par un acquittement. Donc, ça reste non résolu.
De l'homme est sorti de prison.
Oui.
Il était gardé en prison le temps que les procès se fassent.
Oui.
Il est mort libre.
Eh oui. Il a été, on l'a retrouvé, il est obligé de changer de nom. Par contre, ce serait le clergé qui l'aurait obligé à changer de nom pour le protéger un peu. Puis il a fini à l'Institut des sourds et muets à Montréal pour le garder là. Là. Tu sais, ils l'ont comme, ils l'ont transféré dans un endroit tranquille,
et
si on peut dire.
Détail, je dirais... triste. Il est enterré à Côte-des-Neiges.
À côté de son frère.
Sur ce, on prend une pause puis on va revenir dans quelques instants. Conclure cette émission où on a parlé de différents sujets, dont des hold-up qui ont mal tourné, hein, mais aussi de l'abbé Delorme.
Oui.
Et c'est une histoire, on l'a abordée, j'ai l'impression qu'on aurait peut-être pu faire une émission complète sur cette histoire-là, que moi je connaissais pas à la base, mais qui est riche,
très riche.
Ça reste que c'est un meurtre,
mais
est riche de différentes tentacules, le pouvoir de l'Église dans la société québécoise, la santé mentale, les relations familiales, les crimes reliés à l'argent aussi. Il y a plein de dimensions. Et entre autres, il y a un livre récent qui est spécial,
qui est une BD,
une bande dessinée québécoise.
C'est un de mes enseignants en tech doc, Frédéric Champoux, le salut en passant, qui m'a suggéré ça parce que je ne l'aurais peut-être pas vu sortir. Puis je ne suis pas très BD là, dans la vie.
Mais
je l'ai lu, puis non, c'est de la BD pour adultes, premièrement. Oui, c'est très bien fait. Puis il relate en gros tout ce qu'on a dit, un résumé avec des dessins, tout ça. Non, c'est vraiment bien fait.
Puis toi qui es un archiviste, il n'y a pas de fabulation, là.
Non, ils sont assez... c'est assez respectueux de l'histoire. Si je le compare avec Jean Monnet, qui, lui, je me suis basé beaucoup sur le livre, ce qu'on s'est dit tantôt.
Oui.
Là, la seule chose que en revisant, parce que c'est un livre que j'avais déjà lu il y a quelques années...
Qui concerne toujours l'affaire de l'homme.
Oui, qui concerne l'affaire de l'homme.
Oui.
Ça a sorti en 93, je crois. Mais en le relisant et en revisitant nos notes, justement, pour l'émission... Je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune preuve dans son livre comme quoi qu'il a consulté le vrai dossier judiciaire. Donc, pour moi, ça commence à me réveiller une petite lampe. Peut-être que j'irai faire un tour à Montréal bientôt, là, aller voir qu'est-ce qui reste du procès.
Et moi, je n'ai rien pour dire contre le travail de M. Monnet, mais je constate que c'est le petit-fils du juge Monnet.
Ah, oui, oui, c'est possible, oui.
Qu'on parlait des fois des liens filiaux qui n'est peut-être, c'est normal. Ça vient biaisé parfois. Je dirais pas ça de ça.
Je sais qu'il a rencontré certains avocats pour son livre qui avaient été impliqués dans l'affaire, mais qui étaient très vieillissants à cette époque-là. Mais non, moi je suis curieux, ça m'a dit.
Et on a le coffret.
Oui, les grands procès.
Les grands procès avec le grand Pierre Modeau. mon imitation n'a pas réussi. Et il y avait une émission, un épisode sur l'affaire de l'or.
Oui, oui, oui.
C'est-tu...
Je pense que c'était Guy Nadon qui jouait le rôle de l'abbé, oui.
Ah, tout un comédien. C'était un bon comédien. Et cette série-là, on peut présumer que c'est peut-être plus disponible.
Bien, moi, je l'ai acheté il y a quelques années. C'est pas, je ne l'ai pas acheté à l'époque où ça avait pour ça passé. Je l'ai acheté il y a quelques années sur Amazon.
OK.
Je n'ai pas fait de pub, là.
Oui, tu l'as trouvé. Ça peut se trouver.
Ça se trouve encore, je pense.
Merci. Sur ce, on conclut et on se dit à la prochaine pour Québec Crime.
Chez Environ Connexion, nous sommes fiers de nos employés et nous serions heureux de t'accueillir dans notre grande famille. Nous sommes leaders de la gestion de matières résiduelles et nous avons des postes à combler de conducteurs classe 1 et 3, opérateurs, mécaniciens et même journaliers et éboueurs dans nos différents terminaux. Le choix, tu en as chez Environ Connexion. On t'invite à venir parler avec nos équipes de recrutement lors de notre grande journée porte ouverte dans une région près de chez toi, le samedi 30 avril entre 9h et 14h. À Granby, chez Sani Eco, au 530 rue Édouard. À Sherbrooke, chez Sally Estrie, au 405 Rodolphe Racine. À Boisbriand, chez Enviro Connexion, au 4141 Grande Allée. À Belleuil, au 1205 rue Louis Marchand. Et à notre terminal de Laval, au 4799 rue Bernard Lefebvre. Seulement des postes d'éboueurs sont disponibles en ce moment. Impossible de t'y rendre? Pas de problème. Visite notre site maroute.ca ou communique avec Annie au 438-221-8733. Au 438-221-8733. Environ Connexion. Ma route, mon succès.
Le show à l'évêque. Truck Stop Québec.